Certains l'appellent le nouveau mal du siècle, cette angoisse, tristesse ou colère qu'on peut ressentir en pensant à la crise climatique. Ce qui arrive à la planète nous prend aux tripes et nous met dans tous nos états. Et il existe un mot pour le qualifier, la solastalgie. Ce n'est pas une maladie, mais le docteur Alice Desbiol s'y intéresse depuis le mois de janvier. Elle est spécialisée en santé environnementale et l'assure, il est normal d'être inquiet dans un monde qui va mal. Alice Desbiol est l'invitée de la Terre au Carré pour examiner cette solastalgie. Et on attend vos témoignages aux questions au téléphone 01 45 24 7000 ou sur internet avec le mot-clé l'attaque. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Vous passez au vert dans 10 minutes.
Oui, et aujourd'hui je suis parfaitement raccord. Comment les industriels du pétrole pèsent sur nos politiques environnementales?
À tout à l'heure. Juste après 14h, troisième épisode de notre feuilleton sur les îles bretonnes, direction l'île d'Ar pour y planter des arbres. Des arbres encore dans vos solutions pour la planète, puisqu'il sera question de la préservation des forêts anciennes en Auvergne. Enfin, une plongée avec notre invité découverte. Plongée dans les mers et les océans, oubliez le monde du silence. Les poissons chantent et bavardent. Bill François nous le raconte dans son livre « L'éloquence de la sardine ». Valérie Ayestaraï réalise cette émission. Élise Christophe et Arnaud Caillé sont à la technique. Bienvenue.
Camille Cronier. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Alice Desbiol, vous êtes médecin de santé publique spécialisée, je le disais, en santé environnementale. Ça veut dire quoi la santé environnementale ?
Eh ben, c'est tous les professionnels de santé, les professionnels de santé publique qui vont s'intéresser aux effets de l'environnement sur notre santé. Donc, on va regarder les effets de la pollution atmosphérique, les effets des canicules, les effets, voilà, des perturbateurs endocriniens, de la pollution sur notre santé.
Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'autre chose, de solastalgie. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient ce mot étrange et surtout nous le définir?
Bien sûr. Donc, la solastalgie, cela fait référence à une forme de nostalgie d'une nature évanescente, une nostalgie face au déclin des espèces animales, végétales. C'est un concept qui nous vient d'Australie, qui date de 2007 et qui littéralement signifie perte de réconfort. Et on entend souvent parler du terme d'éco-anxiété pour faire référence aussi à cet état d'esprit. Et moi, c'est vrai que je préfère le terme de solastalgie, car finalement, c'est un panel d'émotions ressenties qui va être beaucoup plus large que de la seule anxiété. Par exemple, les personnes qui se sentent concernées par cette solastalgie rapportent une inquiétude très forte pour elles, pour leurs enfants par rapport à l'avenir. Il y a aussi une forme de tristesse, une forme de souffrance morale qui peut être apportée. Parfois aussi un sentiment de culpabilité qui est intimement lié au sentiment d'impuissance qui peut concerner donc les individus face à l'ampleur de la tâche qui est beaucoup trop importante pour une seule personne. Il y a aussi, comme vous le disiez, un sentiment de colère, souvent face à l'inertie ou face au déni collectif. Et pour finir, peut-être aussi un sentiment parfois de solitude, voire de décalage par rapport au reste de la société, par rapport à son entourage, qui ne va pas forcément partager les mêmes préoccupations ou la même sensibilité environnementale.
Donc en fait, entendre parler réchauffement, extinction, effondrement, ça nous tape réellement sur le système ?
Ah oui, bien sûr, c'est fatigant. C'est finalement, cette solastalgie, c'est une forme de mal du pays. Sauf qu'avec le mal du pays, c'est nous qui quittons le pays bien-aimé. Et dans le cadre de la solastalgie, c'est le pays bien-aimé qui progressivement nous quitte. Et ça, forcément, c'est très inquiétant et c'est source, voilà, de tristesse notamment.
Alors, on trouve des dizaines de témoignages, hein, des hommes et des femmes qui disent pleurer, faire des cauchemars, être le rabat-joie pas content quand on annonce une belle journée à 20 degrés en plein hiver, par exemple. On a justement eu un témoignage sur France Inter en juin dernier, la romancière Aurélie Valogne. Écoutez ce qu'elle disait.
Depuis juillet de l'année dernière, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là, je me suis pris une énorme claque. Moi, j'ai fait même une phase un peu, je ne vais pas dire de dépression, mais où j'étais vraiment au fond du gouffre. Et pour écrire en parallèle, c'était très très dur parce que j'ai ressenti l'urgence.
Voilà, c'était dans Boomerang avec Augustin Trapenard. 85% des Français se disent inquiets par le réchauffement climatique. Ils ne sont pas tous touchés. Il y a un public plus propice à la solastalgie où tout le monde peut être touché?
Alors, comme on est tous concernés, finalement, tout le monde peut être touché. Ce qui est un petit peu paradoxal, et c'est peut-être le drame de la situation, c'est c'est que même si on est tous concernés, il n'y a qu'une partie de la population qui se sent concernée. C'est là le petit paradoxe. Mais là, ce que décrit Aurélie Valogne, finalement, c'est quelque chose de complètement normal. C'est comme lorsque l'on vient de perdre un être cher, on va se sentir en deuil. Donc c'est ce qu'elle décrit quand elle dit qu'elle était un petit peu au fond du gouffre. Mais ça, finalement, c'est complètement normal. Les émotions qu'on qualifie de négatives, comme la peur, comme la tristesse, comme l'inquiétude, ce sont des émotions normales qui font partie de la vie. Et c'est pas parce qu'on les ressent que l'on est forcément quelqu'un de déprimé ou quelqu'un de malade.
Alors justement, par rapport aux émotions, j'ai lu un témoignage qui disait, bah, normalement, quand on va pas bien, on nous dit qu'il faut relativiser, qu'il faut rationaliser, pardon, pour relativiser. Alors que là, en fait, plus on rationalise, c'est-à-dire plus on regarde les faits, et ben en fait, plus on désespère.
Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est assez vertigineux. Moi, c'est parfois aussi ce que je conseille aux personnes solastalgiques. C'est au bout d'un moment d'arrêter de se focaliser sur les faits et les constats, parce que malheureusement, la situation est telle qu'elle est, et plutôt se tourner vers les solutions, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Et ça, c'est beaucoup plus constructif et source, voilà, de motivation et de positif.
Avant d'arriver aux solutions, par rapport à justement l'angoisse dont vous parliez tout à l'heure, le fait que on peut être angoissé pour la Terre, mais aussi pour soi-même, et aussi par rapport à l'environnement, à l'ambiance. Je vais prendre mon cas, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont s'identifier. Évidemment, l'état de la planète, je le trouve navrant, mais c'est le côté aussi, ça suffit jamais. On nous dit, il faut faire des petits gestes, et puis il faut faire de la désobéissance civile, et puis en fait, bah il faut changer de banque. Et puis, bah, en fait, rien ne suffit jamais. Et moi, ça m'oppresse. Est-ce que ça, c'est de la solastalgie ?
Parlez-nous, Camille.
Non, mais je pense que plein de gens, comme moi, se ressentent la même chose.
La solastalgie, c'est vraiment l'inquiétude qu'on ressent. Donc, si vous vous sentez inquiète par rapport à l'état de la planète, oui, clairement, c'est de la solastalgie. Je pense que là, ce que vous décrivez, c'est un écueil dans lequel il vaudrait mieux éviter de tomber, parce que finalement, toutes les solutions, tous ces éco-gestes que vous décrivez, s'ils sont vécus comme une corvée et comme des sacrifices, forcément, on va dans la mauvaise direction et on s'est trompé. Par contre, si on arrive à montrer que toutes ces actions ont de nombreux co-bénéfices, parce qu'ils sont, on pourrait en discuter, mais ils sont bons pour la santé, ils permettent de faire des économies, ils permettent de vivre dans une ville avec un urbanisme beaucoup plus propice et agréable, et ben en fait on se rend compte qu'on a gagné. Donc je pense que là c'est une manière de voir les choses, c'est un rapport voilà à nos désirs, à nos aspirations qu'il faut aussi revoir et présenter toutes ces solutions comme en fait des choses qui sont positives et entraînantes.
Alors vous dites solution, vous dites pas remède, parce que la solastalgie c'est pas une maladie.
Alors à mon sens non, c'est pas une maladie. Je pense même que les personnes solastalgiques sont les personnes normales dans un monde qui lui est malade.
Mais les psychiatres ils travaillent sur cette question.
Alors
quand même.
Il y a effectivement des publications scientifiques sur le sujet. Pour le moment, ce n'est pas un thème qui est enseigné à la faculté de médecine ou qui figure dans le DSM-5, qui est le manuel international des psychiatres. Oui. Mais et je ne pense pas vraiment que ça soit une maladie, c'est plutôt une forme de sensibilité au monde, finalement.
Est-ce que c'est un peu, il y a eu le burn-out il y a quelques années qui est venu comme ça se révéler à tout le monde, on a mis un mot en tout cas sur un état, est-ce que c'est un petit peu la même chose et est-ce que c'est pour ça que ça vous intéresse tant aujourd'hui ?
Effectivement, je pense que la solastalgie, le concept est peut-être relativement nouveau, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si on regarde par exemple les Inuits qui voient leurs glaciers ancestraux fondre, et ça fait des années, ils décrivent une forme de solastalgie. Pareil, si on va regarder en Australie, les fermiers qui ont un rapport très fort à la terre, au climat, aux saisons, à l'eau, eux aussi ils décrivent de la solastalgie lors d'épisodes de détresse, et ça depuis des années. Donc le concept est nouveau, mais le fait en lui-même ne l'est pas.
Alice Desbiolles, je le rappelle, vous n'êtes ni psychiatre ni psychologue, mais c'est un sujet qui vous intéresse avec votre casquette de médecin, bien sûr, mais de blogueuse. Vous avez une page, le Stéto d'Alice, où vous faites des vidéos, vous parlez de plein de sujets, mais y compris de la solastalgie. Est-ce que c'est le médecin, dans ces cas-là, qui parle ou c'est la militante ?
Alors, moi, pour le coup, c'est vraiment le médecin, puisque de par mon expertise médicale, donc je lis beaucoup de littérature scientifique et j'ai accès finalement à de nombreuses connaissances, à de nombreuses publications scientifiques, mais qui sont voilà peut-être un petit peu difficiles à comprendre pour le grand public. Elles sont en anglais, elles sont techniques. Et via cette page, j'ai envie en fait d'être une forme de passerelle entre la recherche et le grand public, les citoyens, les personnes qui se posent des questions, en délivrant des conseils avec des qui ont des effets sanitaires avérés. Donc là, c'est vraiment la médecin qui parle peut-être d'une façon un petit peu plus audible, je dirais.
Est-ce que c'est un mal qui est pris au sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas des témoins, par exemple, qui disent non, mais on ne prend jamais au sérieux, on se moque de moi quand je dis que je suis dépressif à cause de l'état de la planète? Et pareil, dans la communauté scientifique, est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde quand même avec sérieux, cette solastalgie?
Alors, je pense qu'on, de plus en plus, on doit la regarder avec sérieux, puisqu'elle s'appuie sur un rationnel scientifique très fort. Hein. Les personnes solastalgiques, c'est parce qu'elles le deviennent suite au constat sur l'état de la planète, sur l'avenir que l'on nous promet. Et donc, oui, c'est un sujet de plus en plus mis sur le devant de la scène et bien sûr qui est considéré avec de plus en plus de sérieux.
Alors, on va venir aux solutions que vous avez un petit peu évoquées tout à l'heure. Donc, pas de remède, mais des solutions. Donc, c'est quoi? Vous dites, c'est arrêter de manger de la viande ou diminuer sa consommation de viande, c'est se mettre au zéro déchet. Ça, c'est des choses qu'on entend tout le temps. C'est, si je peux me permettre, pas très original.
Ah non, ça, moi, je suis d'accord avec vous. D'autres solutions peut-être un petit peu plus spécifiques à la solastagie. Moi, je pense qu'une solution déjà... Pour vos auditeurs qui seraient peut-être un petit peu solastalgiques, c'est d'assumer aussi tout simplement cette solastalgie.
Accepter.
C'est l'accepter, en être fier aussi, parce que finalement c'est assez courageux de regarder les choses en face, toutes ces informations qui sont quelque peu vertigineuses. Donc sans rentrer dans une solastalgie un petit peu vindicative et prosélyte qui, vous en parliez tout à l'heure, peut parfois être mal vécue par d'autres personnes, mais je pense que déjà l'assumer, l'accepter tel quel.
Vous dites même que c'est un sentiment sain.
Ah oui, moi je pense que c'est complètement normal et rationnel de se sentir inquiet quand on vous dit, là c'est le dernier rapport du ministère de la Transition écologique et solidaire qui est sorti ce mois-ci sur l'état de l'environnement en France, qui nous rappelle que nous sommes progressivement en train de dépasser les 9 limites planétaires, parmi lesquelles le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc. Donc bien sûr, c'est complètement normal de se sentir inquiet. Et parmi les autres solutions, une autre qui me semble intéressante, ça serait d'apprendre à se déprendre d'une solastalgie trop négative qui pourrait devenir paralysante. Et donc ça passe par l'acceptation d'un fait très simple, qui est qu'on ne peut pas changer le monde à soi tout seul. Donc ça, c'est important aussi d'intégrer cette information. Par contre, on peut changer son monde. Et ça, c'est un élément à considérer pour les personnes solastalgiques.
Et vous parlez de catharsis salvatrice, Alice Desbiolles. Préparez-vous, les auditeurs ont pas mal de questions à vous poser. Je rappelle le numéro 01 45 24 7000. Et sur Facebook et Twitter, le mot-clé, la TAC.
France Inter. La Terre au carré.
Guy Vanctil, vous nous parliez hier donc de Total, poursuivi au nom de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et aujourd'hui, vous en remettez une couche.
Oui, parce que j'étais un peu injuste avec Total hier en ne parlant pas des autres. Les autres grands groupes pétroliers comme Chevron, Shell, BP, Exxon, qui à eux 5 ont réalisé plus de 82 milliards de dollars de bénéfices en 2018. Alors je vais pouvoir me rattraper aujourd'hui avec Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales grâce à un rapport qui vient de sortir au niveau européen avec 5 autres ONG dont Corporate Europe, Observatory, Greenpeace et les Amis de la Terre, et qui s'intitule Fossil Free Politics. En gros, chassons l'industrie fossile de nos politiques. Ce que montre par le menu ce rapport, c'est leur poids considérable sur les institutions européennes. Avec ce chiffre, 250 millions d'euros dépensés en lobbying par ces 5 multinationales depuis 2010.
C'est ça, oui. Et en un sens, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que ça, c'est donc au niveau européen depuis des années, et en France depuis plus récemment, effectivement, ces entreprises sont tenues de déclarer leurs dépenses de lobbying. Donc on sait qu'à Paris, en 2018, ces mêmes industriels ont dépensé 8,6 millions d'euros de lobbying à Paris même, donc en plus des dépenses au niveau européen.
Et que Total, à lui tout seul, a 23 lobbyistes, rien qu'en France.
Oui, c'est ça. Et puis c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, ces dépenses de lobbying directes et les plus visibles, c'est qu'une partie de la gamme de leurs moyens d'influence. Donc dans ce rapport, on parle d'autres stratégies d'influence et une qui est très importante dans ce domaine, c'est toute la question des conflits d'intérêts, des portes tournantes.
Le pantouflage.
Donc c'est les circulations de personnel entre le secteur public et le secteur privé, c'est-à-dire les industriels, comme Total par exemple, qui débauchent un peu d'anciens hauts fonctionnaires et donc qui profitent de leur carnet d'adresse, de leurs relations.
Vous citez des noms, vous citez des cursus comme ça qui passent d'un côté puis de l'autre pour parler des mêmes questions, un peu de choses près.
Voilà, et donc c'est un peu l'idée que les entreprises parviennent à capturer les processus de décision politique en le prenant par tous les bouts, en plaçant du personnel, en rencontrant les décideurs.
200 lobbyistes européens qui travaillent pour le top 5 des majors pétrolières à Bruxelles.
Donc on sait que tous les jours, il y a au moins 200 personnes qui s'active à Bruxelles pour dire non, attention, il ne faut pas d'action trop ambitieuse en matière climatique. Attention, c'est nous qui sommes la solution, 200 personnes, rien que pour ces 5 entreprises. Et c'est sans compter, effectivement, les quelques centaines d'autres qui travaillent pour d'autres entreprises pétrolières et gazières plus petites. Et le mécénat, donc financer les institutions culturelles, les institutions de recherche, financer les think tanks pour produire des idées un peu favorables à leurs intérêts. Donc il y a toute une gamme de stratégies d'influence.
Voilà comment les lobbies des énergies fossiles font la loi.
Exactement.
Mais Give, il y a quand même bien des lois qui contraignent les activités des grands groupes pétroliers.
Oui, mais ce rapport décrit par exemple comment la loi Hulot fin 2017, censée mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures en France, a été rabotée, rétrécie, finalement repoussée à 2040. Et alors, voilà pourquoi les associations à l'origine de ce rapport, dont Olivier Petitjean, veulent que ça change et ils ont une solution.
C'est ça, ce rapport, en fait, c'est une manière de dire maintenant ça suffit. Parce que ça fait des années et des années qu'on parle de climat. Et maintenant, il y a des documents qui ont été rendus publics qui montrent qu'en fait, les grandes entreprises pétrolières américaines savaient depuis presque les années 70 et ont décidé un peu dans les années 80 d'adopter une stratégie pour retarder autant que possible toute action effective et ambitieuse pour limiter le réchauffement des températures.
Là, vous parlez de Exxon en particulier, qui passe sur le grill en ce moment parce que justement, ils ont été obligés d'admettre qu'ils savaient et qu'ils ont tout fait pour retarder.
Exactement. Et Exxon est particulièrement ciblé, mais il y a des documents de Shell aussi. Enfin, c'était quelque chose de connu dans les cercles des industriels.
ExxonMobil est sous haute surveillance.
Le géant pétrolier ExxonMobil a-t-il trompé ses actionnaires et ses investisseurs sur les risques liés au changement climatique?
En 1982, Exxon avait estimé précisément les niveaux de CO2 de température que nous aurions aujourd'hui en 2019. Donc, ils savaient.
Et donc, ce rapport, c'est une manière de dire maintenant, ça suffit. On a vu les résultats de cette présence des industriels des énergies fossiles dans les enceintes de décision au niveau national, au niveau européen et même dans les conférences climat. Et donc maintenant, il faut adopter une mesure plus stricte qui est imitée de ce qui était fait en fait par l'Organisation mondiale de la santé dans le domaine du tabac. En fait, pendant longtemps, sur le tabac, il y a eu un peu la même dynamique où les industriels du tabac disaient non, mais on n'est pas sûr que la cigarette provoque le cancer, etc., etc. Et au bout d'un moment, l'Organisation mondiale de la santé a dit « Non, ça suffit, on ne va plus accepter la présence d'industriels du tabac dans nos enceintes de négociations internationales et on va limiter très strictement les interactions entre les décideurs, les hauts fonctionnaires d'un côté et les lobbies de l'industrie du tabac. » Donc ils ont édicté des règles très strictes. Et ce que nous demandons, ce que c'est toutes ces ONG qui ont produit ce rapport, qui donnent des nouveaux chiffres illustrant l'influence de ces industriels, c'est qu'on adopte des mesures similaires en fait sur les questions de climat, et donc qu'on boote, pour ainsi dire, les industriels du pétrole, du gaz et du charbon hors des enceintes de décision en matière de climat.
Et le rapport, vous pouvez le retrouver sur le site de la Terre au Carré ou de l'Observatoire des multinationales et des amis de la Terre.
Comme cette chronique, Guy va retrouver sur franceinter.fr. Une question pour Alice Desbiol.
Oui, je vais vous demander justement la lutte contre le poids des lobbies pétroliers. Est-ce que ça peut être bien, ça, pour lutter contre sa solastalgie à soi?
Ah ben, on n'en a pas parlé, mais l'engagement, bien sûr, ça marche très bien pour se sentir mieux, donc bien sûr.
Ça fait partie des solutions. Allez, on se retrouve dans un instant avec donc Alice Desbiol, médecin spécialiste de la santé environnementale, pour parler solastalgie avec vos témoignages et questions dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et l'application, la page de la Terre au Carré et les réseaux sociaux avec le mot-clé « la TAC ».
Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along. Don't hesitate. The pain, you ain't the problem.
one, you are the problem. I try to help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem.
You ain't the problem, c'était Michael Kiwanuka.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Camille Cronier sur France Inter.
Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier ?
C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années.
Vous avez jeté le repas à la poubelle ?
On a jeté la côte de bœuf parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones et qu'ils mangent que des pilules chimiques.
Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on ne mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé.
Voilà un extrait du film La Crise en 92 avec les enfants qui, eux aussi, pètent un peu les plombs, hein, déjà à l'époque, face à la situation climatique. Car c'est ce dont on parle aujourd'hui avec vous, docteur Alice Desbiol. La solastalgie, il y a du monde au standard, 01 45 24 7000. Nous sommes avec Nadine. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi je voulais intervenir effectivement parce que je suis comme toutes ces personnes qui ressentent cette fameuse solastalgie.
Solastalgie.
Je n'arrive pas à expliquer le mot. Solastalgie.
Qu'est-ce que c'est-à-dire vous le ressentez ? Oui, c'est exactement la solastalgie. Voilà. Comment vous la ressentez alors ? Voilà. Vous, c'est de la tristesse, de la colère ?
Moi, je la ressens très fortement, oui, de la tristesse bien évidemment, comme beaucoup de gens, mais en plus, oui, de la colère. De la colère parce que j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que malgré tout ça, on continue encore à avoir des comportements qui sont pas les bons et que ben on fait comme si ça n'allait pas arriver, comme si ça allait arriver aux autres alors qu'on est dedans. Et je le ressens certainement parce que ça fait longtemps, en fait, c'est pas d'aujourd'hui que je suis en colère. Et même si j'ai de l'espoir parce que notre jeunesse, heureusement, elle prend bien conscience. Pour des gens de mon âge, malheureusement, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est encore très, très loin du compte et ça me met très en colère. Voilà.
Merci.
Et ça me rend très, très malheureuse au quotidien.
Merci Nadine pour ce témoignage. Alice Desbiol, la colère, elle peut être aussi dirigée contre les autres.
Ben oui, c'est exactement ce que vient de nous dire Nadine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, voilà, ce sentiment d'être en décalage par rapport à la société. Moi, je tiens juste à rappeler que depuis 2004, on a une charte de l'environnement et son article premier, c'est que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Give, une question ?
Oui, c'est un témoignage aussi, là aussi, de Bénédicte via l'application France Inter, qui dit « Ça fait tellement bien d'entendre parler d'environnement et je me sens tellement mieux depuis ce déclic des médias sur l'urgence environnementale. Après des années de désespoir face au déni de la société, enfin merci. » Et ça rejoint ce que vous disiez sur le réveil que ça peut aussi
susciter.
Complètement.
Moi, je pense que c'est « J'ai bon espoir », c'est peut-être ce qui sauvera le monde si demain, tout le monde devient solastalgique, puisque comme je le disais, nous sommes tous concernés, mais malheureusement, il n'y a que certaines personnes qui se sentent concernées.
D'ailleurs, David, sur l'application France Inter, nous dit « La solution, c'est l'action, s'engager dans des associations, par exemple. » Nous sommes en ligne avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors vous aussi, je crois que vous êtes touchée par cette fameuse solastalgie. Vous venez de mettre un mot sur ce qui vous touche.
Oui, alors moi je passe par différents états d'âme, mais ça fait depuis la fin des années 90 que j'essaie de faire des efforts par rapport à ça, notamment par rapport à la pollution qu'on génère dans les véhicules. Moi je culpabilisais, mais comme une folle. À partir de la fin des années 90, j'étais mère de famille et j'utilisais beaucoup ma voiture. Donc voilà, j'ai commencé à amener mes enfants à l'école avec une petite charrette. J'ai abandonné la voiture en 2003, mais j'étais en Suisse. Et puis dans ce pays, les transports
c'est
en commun sont très très bien développés. Mm-hmm. Et puis pour finir, là, ces dernières années, je vis de nouveau en France. Donc je me suis acheté un véhicule électrique. Donc il est un petit peu moins quand même sale, on va dire, au final. Donc j'ai un petit peu moins mauvaise conscience. Mais par contre, régulièrement, je suis vraiment super en colère par rapport aux gens qui font pas attention. Par exemple, bon, l'été, quand il y a les canicules, ça me rend dingue parce qu'on vit très clairement les conséquences de la crise climatique. Et pourtant, on en parle tous les jours dans les médias, et pourtant, il y a encore des gens qui laissent tourner leur voiture pour faire des textos, leur moteur.
Ça vous met hors de vous, Stéphanie.
Et ça me met mais dans une rage noire. Puis je me dis, mais arrête, c'est toi qui te détruis.
Alors justement, Alice Desbioles, est-ce que finalement, ceux qui ne sont, entre guillemets, pas normaux, sont ceux qui, en fait, n'en ont rien à faire? C'est ce que nous demande Gilles aussi par mail.
Moi, je dirais pas normaux, c'est plutôt qu'ils mettent en place des stratégies pour se protéger face à toutes ces informations qui sont profondément inquiétantes et qui remettent en question. Et ces stratégies, c'est la mise à distance des informations sur l'environnement, c'est le déni aussi, tout simplement. Et là, ce qu'on vient d'entendre par rapport à la culpabilité que vous pouviez ressentir,
Stéphanie, ouais.
ce que Stéphanie pouvait ressentir, ça, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Mmh. La dissonance cognitive, c'est le décalage, le déchirement interne que peuvent ressentir certaines personnes lorsqu'elles sont en décalage, en fait, entre leurs actions, leur vie au quotidien, comment elles vont acheter, comment elles vont se déplacer, comment elles vont se nourrir, et finalement leurs convictions profondes, leurs inquiétudes ou leurs sentiments.
D'être confrontée à une contradiction.
Contradiction interne, exactement. Et donc un très bon moyen du coup pour réduire cette culpabilité, c'est ce qu'a fait Stéphanie, c'est de donc réduire la dissonance cognitive en adoptant un mode de vie beaucoup plus en accord avec du coup ses convictions profondes.
Et on remercie Stéphanie. Guy, une question.
Oui, c'est Jacques qui, sur l'appli France Inter, qui justement à ce propos, il dit « L'abondance de propos anxiogènes dans les médias est-elle la cause, ou moins en partie, de cette solastalgie ?»
Ça nourrit clairement un sentiment d'inquiétude. C'est une des conclusions du dernier baromètre de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui chaque année publie la perception des risques par les Français. Et là, c'est vrai qu'on voit que parmi les préoccupations environnementales, la première préoccupation environnementale maintenant, c'est le réchauffement climatique, et la deuxième, c'est l'effondrement du monde vivant. Et l'IRSN avance comme principale cause explicative de cette première préoccupation environnementale le très grand nombre de publications scientifiques qui sont sorties et qui ont été mises en avant par les médias.
Nous sommes en ligne avec un homme. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Alice Desbioles écoute votre question.
Je voulais déjà d'abord vous féliciter pour vos émissions qui sont passionnantes.
Merci.
En fait, j'aurais voulu savoir si la solastalgie, s'il y avait un public qui était plus fragile que d'autres, s'il y avait des publics plus fragiles que d'autres, et notamment, je pensais plutôt aux ados, et qui pourraient développer des vraies pathologies par ce phénomène.
Alors, votre réponse, Alice Desbioles. Merci, Pascal, pour votre question.
Effectivement, il y a potentiellement des profils un petit peu plus concernés. Les adolescents, puisqu'ils vont prendre de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, entre autres, puisqu'ils sont jeunes. Et aussi, une autre population qui est souvent rentre très rapidement dans la solastalgie, c'est les parents, les jeunes parents ou les futurs parents, tout simplement parce que le fait d'avoir une progéniture à protéger...
Dans quel monde j'envoie mes enfants, quoi?
Exactement, et surtout le rapport au temps change. Lorsque l'on devient parent, on se projette beaucoup plus loin dans l'avenir. Il y a une forme de communauté de destin avec nos enfants. Et 2050, 2100, les prévisions des scientifiques, ça semble beaucoup plus proche, puisque un enfant qui va naître l'année prochaine aura 30 ans en 2050 et 80 ans à la fin du siècle.
On est en ligne avec Alain. Bonjour Alain.
Bonjour.
Je crois que vous avez un petit coup de gueule à passer, entre guillemets.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
On vous écoute.
Je suis tout à fait d'accord avec le nom qui est le nom solastalgie, qui est un terme générique pour décrire à peu près ce que l'on ressent par rapport à ce qui nous entoure. Mais comment dirais-je, je suis très en colère moi aussi comme la première intervenante. Sur tout ce que je vois autour de moi, je vois que dans les médicaments aussi, il y a des produits qui ne sont pas bons. Par exemple, le E171, par exemple, qui est bien connu par...
Votre épouse n'est pas d'accord non plus, apparemment.
Puisqu'on en parle et ils nous répondent.
Donc vous, Alain, pardon, je vous coupe. Alain, ce qui vous dérange, c'est plus le côté politique, dirigeant et industriel, Alice Desbioles. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de ce côté-là?
Je pense que la responsabilité, elle est collective, puisque tout simplement, je pense que nos dirigeants politiques mettent en place aussi le programme pour lequel ils ont normalement été élus. Donc je pense que s'il y a une forte demande citoyenne de prise en compte de ces enjeux, il faudra bien finir par suivre.
Une dernière question très rapide de Véronique via Twitter. Elle se demande comment les scientifiques qui étudient les catastrophes environnementales font pour supporter leurs constats. Est-ce qu'ils ont des secrets de résilience?
Ils n'ont pas beaucoup de secrets de résilience, moi j'en connais certains. Effectivement, c'est dur. Je parle moi du spleen du climatologue.
Alors, d'accord. Merci beaucoup, Alice Desbioles. Alors, si on veut poursuivre sur ce thème, je rappelle votre page, le stéto d'Alice. Il y a aussi des vidéos sur YouTube et un livre à venir donc au printemps sur l'éco-anxiété. Merci d'avoir été avec nous. Juste après les infos, le feuilleton de la semaine. On part sur l'île d'Ar dans le golfe du Morbihan où, pour faire face à l'érosion des sols, on plante des arbres.
Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, les conversations du monde sous-marin, nos poissons communiquent et c'est passionnant. On verra ça avec notre invité découverte, Bill François, et son éloquence de la sardine. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Émilie pour un projet de préservation des forêts anciennes en Auvergne. Ce sera juste après un nouveau reportage de notre série consacrée cette semaine aux îles bretonnes. Bonjour Morgane Large.
Bonjour Camille.
Vous nous emmenez donc aujourd'hui dans le golfe du Morbihan sur l'île d'Ar, 128 habitants, touchés bien sûr par les éléments et l'érosion qui va avec, mais la solution se trouve peut-être dans les arbres, on y va.
Alors du point de vue naturel, les changements sont relativement longs, et puis il y a certains qu'on n'explique pas. Alors la mer elle monte, ça, si on n'est pas climato-sceptique, ça, c'est évident. La vitesse de montée, il y a une dizaine d'années, on disait 1 mètre, et puis c'est descendu à 50 centimètres en fin de siècle. Maintenant, on parle de nouveau plutôt 1 mètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la montée régulière des zones, à mon avis, pour une île comme la nôtre, n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est les aléas météorologiques qui font qu'on peut avoir une tempête qui casse un hymne lors d'une grande marée, d'un gros temps, alors que sinon, ça aurait pu durer encore des années. Mais dans ce cas-là, l'île d'Ar risque d'être coupée en 5 ou 6 îles différentes.
Jacques de Certaines, élu sur la commune de l'île d'Ar, n'est pas le seul à s'inquiéter de l'érosion des sols. L'unique ferme de l'île, tenue par 4 jeunes associés qui font de la transformation laitière avec des vaches pinoires bretonnes, subit aussi les effets du changement climatique et de l'érosion.
On a des zones où l'herbe ne pousse plus parce que le milieu est trop salé. Et puis on a aussi la terre qui se fait grignoter petit à petit, donc on doit repousser nos clôtures. Donc on le voit très bien. En fait, on a aussi les arbres qui ont été plantés il y a une centaine d'années qui tombent avec les tempêtes, donc qui arrachent aussi quand même des gros morceaux de terre. Et ça décale tout, ça décale le sentier côtier, ça décale aussi notre clôture du coup. Puis ouais, le fait qu'il y ait des marais, ce sont des zones qui ne sont pas pâturables pendant 6 mois dans l'année quasiment, alors qu'avant c'était que 2 mois.
Bien décidés à défendre leurs terres, Thomas et ses associés essayent de trouver des solutions.
J'étais allé visiter une ferme d'agroforesterie en Charente-Maritime, qui est dirigée par l'INRA et qui a remis au goût du jour la plantation d'arbres fourragés pour les vaches. Et donc ça nous a donné l'idée avec Clément de relancer ce projet sur notre projet d'installation. Et on est accompagné par Stéphane Sachet, qui est doctorant sur l'agroforesterie à Bordeaux et qui a monté sa société de plantation d'arbres à destination de l'élevage ou des grandes cultures et de remettre l'arbre au cœur du système agricole français. Alors le projet, c'est de planter plusieurs milliers d'arbres sur l'île d'Ar, donc dans les pâtures, refaire des haies et puis le long de la côte aussi pour refixer les berges et faire des haies brise-vent pour qu'il y ait moins d'érosion des sols à l'intérieur des pâtures.
Mais alors vous n'aurez plus d'herbe pour vos vaches?
Eh bien si, justement, on aura plus d'herbe parce qu'il y aura moins de vent. On aura plus d'herbe parce que les arbres vont remonter les éléments nutritifs du sol. Ils vont aussi remonter l'eau du sol. Donc l'herbe sera de meilleure qualité en plus grande quantité. Et aussi, on va planter des arbres fourragés qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire c'est des arbres qui ont des éléments nutritifs que les vaches assimilent bien. Et donc les vaches vont venir directement pâturer l'arbre au cœur des prairies. Puis on va planter aussi une ligne de tamari en bas, donc qui est une, une plante qui supporte très bien la salinité et qui a un enracinement assez profond pour stabiliser la berge. Donc c'est évidemment c'est un peu un soin palliatif puisque ça va pas révolutionner l'effet de l'eau, mais ça va au moins le limiter dans le temps. Mais forcément, à un moment, la berge, elle se fera manger.
Forcément, parce que l'eau monte.
Oui, parce que l'eau monte et avec le vent et la montée de l'eau du golfe, notre haie va tenir quelques années, mais elle va forcément à un moment aussi être arrachée par l'érosion.
On fait quoi alors ?
Eh ben, on essaye de limiter le réchauffement climatique pour limiter l'érosion, et puis il faut s'adapter, trouver des nouvelles essences, et puis valoriser au mieux les espaces agricoles disponibles.
Et en tant que citoyen, que peut-on faire pour l'île d'Arc ?
Bah, planter des arbres, c'est vraiment la clé. Planter des arbres au plus près des berges, à l'intérieur des sols.
Et quand on n'a pas de terre pour planter des arbres, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh ben, on vient aider à planter des arbres à la ferme cet hiver, et puis l'hiver prochain, et encore l'hiver d'après. Et puis voilà, après c'est chacun... Faut regarder ses comportements individuels et puis essayer de faire au mieux. Et puis politiquement, au niveau national, essayer de s'engager sur une voie plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement.
Et le dernier épisode de cette série bretonne, c'est demain. On va où, Morgane ?
On part à Édic demain.
Alors à demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et vous savez quoi, Guy, on va encore parler d'arbres avec Émilie. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Alors, je vous appelle du Cantal, depuis la commune de Neufargues-en-Pinatel.
Parfait, c'est mon département de cœur. Alors, ça me va. Vous êtes. Vous êtes responsable du projet Sylvae au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne pour préserver les forêts anciennes en Auvergne. C'est quoi une forêt ancienne, une vieille forêt, Émilie ?
Alors, une vieille forêt, effectivement, c'est une forêt qui va être ancienne et mature. Alors, la notion d'ancienneté, en fait, c'est parce que ces forêts, elles existent depuis au moins 200 ans, voire plus. Et donc, ce sont des forêts dans lesquelles il y a eu la continuité du couvert boisé. Et puis, mature écologiquement, cela signifie qu'en fait, il n'y a pas de traces d'exploitation récente dans ces forêts. Et donc, que l'on va y trouver des gros arbres et aussi du bois mort en grande quantité, que ce soit des arbres morts au sol ou même sur pied.
Ce seront pas forcément des vieux arbres, Émilie.
Alors, dans les forêts anciennes et matures, dans les vieilles forêts, si, voilà, c'est bien. Les forêts anciennes, c'est pas forcément des vieux arbres, mais les vieilles forêts, c'est bien la conjugaison des deux notions d'ancienneté et de maturité. Et donc, voilà, c'est la continuité du couvert boisé et la présence de vieux arbres et d'arbres de gros diamètre avec beaucoup de bois mort dans ces forêts.
Alors, elles sont où, ces forêts en Auvergne ? Il y en a beaucoup ?
Alors, les vieilles forêts, c'est des écosystèmes qui sont aujourd'hui relativement rares. On les trouve essentiellement dans des zones de montagne ou des secteurs de gorge, ou en tout cas des secteurs qui sont plus difficiles d'accès. Et donc, on va les trouver dans différents massifs. Aujourd'hui, le Conservatoire d'Espaces Naturels préserve d'ores et déjà des vieilles forêts, par exemple dans les gorges du Chavanon, donc cette rivière qui fait la limite entre le département du Puy-de-Dôme et le département de la Corrèze. On préserve également des vieilles forêts dans le secteur des Monts du Forez. Donc là, on est plutôt sur la partie est du Puy-de-Dôme. Et on en trouve dans d'autres secteurs, notamment dans les zones de montagne, dont les monts du Cantal, par exemple.
Et ça, c'est votre projet Sylvae, donc c'est de les préserver. Alors vous faites comment ? Vous les achetez ? Ça coûte cher ?
Voilà, donc le principe du projet Sylvae, effectivement, c'est de préserver ces vieilles forêts sur le long terme. Et un des moyens pour les préserver, ça va être de faire l'acquisition de parcelles pour justement les laisser en libre évolution.
C'est ça, à des privés, quoi, vous achetez ça ?
Voilà, on les achète en tant que conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, et donc ces parcelles vont être laissées en libre évolution, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune intervention sur la végétation, aucune coupe d'arbres, aucune intervention sur la végétation, et donc les arbres vont pouvoir accomplir leur cycle biologique dans la totalité. Et donc on procède effectivement à l'acquisition sur plusieurs secteurs.
Et Émilie, comment vous financez ? Ça coûte cher une forêt ?
Alors le prix d'acquisition de ces vieilles forêts, il va être assez variable. Ça va dépendre, est-ce qu'on va avoir beaucoup de gros arbres, ou est-ce ça va aussi dépendre de la profondeur du sol, des contraintes topographique d'accès aux parcelles. Et donc ce prix d'acquisition, il va être relativement variable. Et donc si on est sur des arbres, des parcelles où on a de gros arbres, forcément, voilà, ça va avoir une valeur d'acquisition plus élevée que lorsque l'on est sur des parcelles avec des petits arbres vieux tout rabougris, on va dire.
Vous avez combien de parcelles aujourd'hui alors?
Alors, en nombre, on parle plutôt, nous, en nombre de surface.
Ah, d'accord.
Aujourd'hui, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, on préserve un peu plus de 130 hectares de vieilles forêts. Et l'objectif est d'arriver à moyen terme à environ 400 hectares.
400 hectares, je ne me rends pas compte de la surface que ça peut représenter en Auvergne. C'est beaucoup ou pas?
Non, ça nous ferait sur les vieilles forêts, en fait, on serait à environ peut-être 2% de la surface des vieilles forêts actuelles en Auvergne, en fait.
Pourquoi, Émilie, c'est important de les protéger, ces vieilles forêts? Il y a des espèces à l'intérieur, les arbres en eux-mêmes, c'est important de les protéger?
Oui, alors les vieilles forêts, effectivement, il y a déjà une entrée par rapport liée à la biodiversité. Dans ces vieilles forêts, on va y trouver bon nombre d'espèces animales et végétales qu'on ne va pas trouver ailleurs. On peut prendre l'exemple notamment d'insectes qui sont liés au bois mort et dont certaines espèces, que on va notamment qualifier de reliques glaciaires, ont trouvé refuge dans ces vieilles forêts depuis les dernières glaciations. Et ces espèces-là, elles ont des très faibles capacités de dispersion. Elles ont pourtant un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème forestier, donc notamment dans la décomposition de la matière et autres. Et donc certaines espèces ne sont liées vraiment qu'à ces vieilles forêts. Donc ça, l'aspect biodiversité, c'est un des premiers enjeux. Mais aussi, voilà, c'est aussi ces vieilles forêts, ça continue à stocker du carbone. Et effectivement, dans le contexte de changement climatique actuel, c'est important de préserver ces vieilles forêts qui vont stocker du carbone, notamment à travers la biomasse du sol.
Mais j'imagine, là, vous parliez des micro-insectes. Le fait de ne pas intervenir sur ces forêts et justement de les laisser vivre telles quelles, j'imagine que ça doit aussi profiter aux autres animaux qui peuvent s'y ébattre.
Oui, effectivement, c'est profitable à plein d'espèces au niveau de la faune et de la flore. Mais laisser vieillir une forêt, ça va surtout, voilà, permettre d'avoir un meilleur compartiment lié au bois mort, notamment. Et il faut savoir qu'en forêt, il y a une espèce sur quatre, en moyenne, qui est liée au bois mort, qui en a besoin pour, en période de reproduction, pour se nourrir, ou comme de zone de refuge. Et donc, on va avoir beaucoup d'espèces de champignons, d'insectes, qui sont liés au bois mort. Et donc, plus on aura de bois mort, plus il y aura de biodiversité dans ces forêts.
On peut s'y balader dans ces forêts ou pas?
Alors oui, on peut s'y balader. Après,
mais elles ne sont pas signalées.
Parfois, on est de grand vent, ouais. Quand les arbres sont éventuellement, comme la forêt, voilà, évolue naturellement, bien, des vieux arbres peuvent arriver voilà, en phase de sénescence. Et lors de certains gros épisodes de vent ou autre, effectivement, il y a de la casse. Donc là, il vaut mieux pas être dans les parcelles à ce moment-là.
D'accord. Alors si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on doit aller, Émilie? Vous avez un site internet?
Alors on a le site internet du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, donc CEN-6Auvergne.fr. Et sur ce site internet, on retrouve notamment la souscription que le conservatoire a mis en place pour l'acquisition de ces parcelles, puisque effectivement le conservatoire donc souhaite acquérir des parcelles. On le fait en partie grâce à des fonds publics, mais ces fonds publics, ils permettent pas de couvrir la totalité des besoins. Et donc, on a mis en place une souscription en ligne où tout un chacun peut y participer.
D'accord. Et donc, prendre un petit bout de ces forêts anciennes. Merci beaucoup, Émilie. Il fait beau à Neussargues-en-Pinatel aujourd'hui?
Oui, c'est plutôt beau. Et avec les couleurs d'automne, les forêts, justement, sont magnifiques.
Eh ben, vous avez beaucoup de chance. Merci et à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez nous parler, vous aussi, d'une initiative pour la planète, vous allez sur la page de la Terre au Carré. On vous remettra d'ailleurs le lien pour le projet Sylvae. C'est sur franceinter.fr. Allez, maintenant, prenez le tuba, les palmes et inspirez un grand coup. Dans un instant, on plonge, écoutez les bavardages de nos amis les poissons.
Oh mais c'est encore vous mon cher. Oh mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh je me sens de vous prisonnière. Oh je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Prisonnière, c'était Stéphane Escher sur France Inter.
La Terre au carré. Camille Cronier.
Regarde bien le monde qui t'entoure. Dans l'océan parfumé, on fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan.
La voix d'Henri Salvador dans La Petite Sirène, c'était en 89 avec le homard Sébastien. C'était ça ou un autre Sébastien, Patrick, avec les sardines. J'ai choisi Les Souvenirs d'enfance. Bonjour Bill François.
Bonjour.
Alors vous n'étiez pas né en 89 puisque vous avez 25 ans, mais vous vous y connaissez en chansons sous-marines puisque vous venez de publier chez Fayard L'éloquence de la sardine avec votre dessin en couverture. C'est bien ça?
C'est vous qui avez fait
cette sardine. Pour ceux qui se disent, je connais ce nom Bill François, on rappelle que vous avez gagné le grand concours d'éloquence, le grand oral en février dernier sur France 2. Dans ce joli petit livre, vous racontez comment le peuple de la mer et du monde du silence, il fait en fait un vacarme immense.
Oui, c'est ça. Je fais découvrir les histoires du monde sous-marin en commençant par écouter la mer, c'est-à-dire écouter les voix de toutes les créatures qui la composent. Parce que même si on a l'impression, lorsqu'on met les oreilles sous l'eau, qu'on entend qu'une sorte de glouglou incompréhensible, eh bien, en analysant un peu ce son, on se rend compte qu'il y a toutes les voix de plein de créatures qui font beaucoup de bruit, en fait.
Mais qu'est-ce qu'ils font comme son, qu'est-ce qu'ils produisent comme son, les poissons et les crustacés?
Alors, il y a de tout. Par exemple, on entend comme une sorte de pétillement. Ça va être plutôt les crustacés qui vont claquer des pinces, qui vont manger leur nourriture avec leurs dents, mais les poissons sinon font toutes sortes de vocalises. Il y en a qui utilisent leur vessie natatoire, c'est un organe qui est rempli de gaz, ils utilisent ça comme un tambour, donc ça va faire des bruits un peu comme des tambours. D'autres qui font des bruits plutôt comme le buzzer d'un jeu télévisé, ou alors simplement des sortes de chants avec des cordes vocales.
L'hippocampe xylophone, vous dites aussi.
Oui, alors l'hippocampe joue comme du xylophone avec en fait les épines de sa nageoire. Voilà,
t'as un vrai son de xylophone.
Au niveau du son, ça ressemble un petit peu, même si c'est pas calibré sur des notes juste comme un vrai xylophone, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il utilise les rayons osseux de sa nageoire pour faire du son. Oui.
Vous parlez aussi de poissons qui grincent des dents.
Oui, beaucoup de poissons, notamment la perche soleil, qu'on appelle aussi calicoba, que certains connaissent parce qu'il y en a dans nos lacs et nos étangs. Beaucoup de poissons grincent des dents, à la fois les dents qu'il y a dans leur bouche et aussi des dents qu'ils ont dans le pharynx, en fait, à l'intérieur de leur gorge, quoi.
Donc c'est un vrai concert qu'on peut entendre sous l'eau. Alors parfois c'est pas tout à fait juste. Vous parlez de la langouste qui joue du violon et qui jouerait très faux, en fait.
Oui, alors. Oui, elle joue faux, mais on peut l'excuser. C'est quand même le seul animal qui joue du violon, en tout cas le seul animal connu, c'est-à-dire qui utilise le principe d'un archet qui frotte sur des cordes à l'aide de ses antennes, en fait. Et c'est un principe assez complexe parce que ça utilise les différences de coefficients de frottement des matériaux pour produire un son. Par contre, c'est vrai que c'est assez peu mélodieux si vous écoutez sur Internet. Et on peut aussi distinguer la langouste femelle de la langouste mâle en fonction de son cri.
Ils ont des sons différents.
Ils ont des sons différents.
Ah oui, d'accord. Vous parlez aussi de la coquille Saint-Jacques. Alors, c'est beau, vous dites, le chant des coquilles Saint-Jacques qui font du bruit en éternuant apparemment.
Oui, c'est ça. Comme elles se remplissent de sable régulièrement, en fait, elles éternuent pour se débarrasser de ce sable. Et on peut analyser en Bretagne, ils analysent beaucoup le son émis par ces coquilles Saint-Jacques parce que ça nous donne une indication sur leur santé et leur niveau de stress, notamment s'il y a des prédateurs, parce qu'elles ont des yeux, hein, on le sait pas, mais les coquilles Saint-Jacques ont une dizaine d'yeux le long de leur coquille qui leur permet de voir les prédateurs et elles éternuent moins quand elles ont peur.
Mais là, vous parlez des sons qu'on peut détecter, qu'on peut enregistrer, mais est-ce que les poissons, eux, ils les entendent, ces sons ?
Alors oui, bien sûr. Ils ont pas d'oreilles, mais ils ont plein d'autres organes qui leur permettent d'entendre les sons. Principalement, les otolithes, c'est deux petites pierres qu'ils ont à l'intérieur de leur tête. Donc si vous disséquez une tête de poisson, vous trouverez des petites pierres comme des pierres précieuses, de taille variable, de quelques millimètres à quelques centimètres, et ces pierres vont vibrer et leur transmettre les sons. Donc oui, bien sûr qu'ils les entendent, et ça leur permet de communiquer entre eux.
Alors, Bill François, si vous savez tout ça, c'est que vous avez transformé votre passion en étude à l'École Normale Supérieure, où vous préparez une thèse, c'est ça, sur la mécanique des fluides appliqués à la nage des bancs de poissons.
Oui, c'est ça.
Je ne me trompe pas. Passion sardine, dont vous parlez presque amoureusement dans votre livre. Je cite, la première fois que vous en avez aperçu une dans la mer, je vais lire cet extrait. Peu de gens savent à quel point une sardine vivante est jolie. Elle était toute brillante et argentée, avec une ligne d'un bleu électrique, comme une guirlande le long de son dos noir, sur les flancs rutilé un large trait doré. La sardine était à la fois resplendissante et fragile. Pourquoi tant d'amour pour la sardine ?
C'est un très très joli poisson, la sardine. C'est un des poissons, ce qu'on appelle les poissons pélagiques, donc c'est les poissons qui vivent au large et qui ont des couleurs extrêmement lumineuses parce qu'ils s'en servent pour diverses raisons que j'explique dans mon livre. Et en fait, c'est des poissons que du coup on voit assez peu fréquemment sur nos côtes, parce qu'ils vivent en général très loin des côtes et qui sont vraiment esthétiquement très jolis. Alors, en plus, la sardine a toute une histoire avec l'humanité, parce que l'industrie de la sardine, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles.
Et elle est presque populaire quelque part, la sardine, on l'a
exactement, il y a plein de légendes, le port de Marseille, etc., la sardine.
Alors, elles savent communiquer sans parler, vous avez titré votre livre « L'éloquence de la sardine », donc c'est pas exactement l'éloquence, on sait plutôt quand on parle. Comment elles communiquent, les sardines, dans leur banc ?
Oui, c'est pas un poisson très bruyant, mais on peut considérer que c'est une forme de communication dans la mesure où elles organisent leur banc avec une véritable intelligence collective, un peu comme les vols des tourneaux, pour arriver à faire des grands mouvements parfois très complexes qui leur permettent souvent d'échapper à leurs prédateurs. Et c'est une forme de vote, en fait, souvent. Lorsque le banc a à prendre une décision, il y a une sorte de démocratie qui se met en place, mais simplement par les mouvements les unes par rapport aux autres. Elles sentent leurs mouvements grâce à des capteurs qu'elles ont le long de leur corps. Et en fait, simplement par ces mouvements-là, elles vont pouvoir prendre des décisions assez complexes.
Elles sentent les mouvements de l'eau, en fait, et elles arrivent à communiquer,
voilà,
comme ça.
Voilà, elles sentent les mouvements générés par les autres et elles arrivent à s'organiser entre elles.
C'est pour ça qu'il n'y en a jamais une qui va à contresens.
Si, c'est l'anarchiste, celle-là.
Exactement.
Il y a des couleurs aussi. Les couleurs, les parfums sont aussi un langage de la mer, vous le dites, vous l'écrivez.
Oui, c'est très important sous l'eau. Il y a beaucoup de couleurs qu'on ne voit pas, que nos yeux n'arrivent pas à voir. Par exemple, les ultraviolets. Donc, dans la mer, des poissons qui peuvent apparaître ternes, et ben, à leurs yeux, à eux, peuvent avoir des couleurs, en fait, très, très colorées, très brillantes, mais en ultraviolet, dans des lumières que nous, on n'arrive pas à voir. Des longueurs d'onde qui sont invisibles à nos yeux. Et ils s'en servent forcément beaucoup pour communiquer.
Oui, parce qu'on rappelle quand même que dans l'eau, quand on fait de la plongée, les couleurs disparaissent. C'est-à-dire qu'évidemment, elles sont visibles avec la lumière du soleil. Donc, plus on descend, moins il y a de soleil et plus les couleurs disparaissent.
C'est ça. C'est par la diffusion. C'est le même principe que le ciel est bleu. L'eau apparaît bleue parce qu'elle absorbe toutes les couleurs sauf le bleu. Et plus on descend, plus les couleurs disparaissent. À 5 mètres, on n'a plus de rouge. Et ensuite, plus de jaune, plus de vert.
Donc le thon, par exemple, change de couleur pour effrayer ses proies, c'est ça ?
Oui, exactement. Et justement, il utilise une de ces couleurs invisibles à nos yeux. Donc un thon qui est énervé, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours sur nos côtes. Il faut aller un petit peu au large, même s'il y en a de plus en plus près des côtes. Un thon qui est énervé va être plein de bleu très électrique, riche en UV, pour éblouir les sardines.
Les thons qui ne dorment jamais, j'ai appris ça en lisant. Un thon, ça doit nager tout le temps, parce que si ça nage pas, ça coule et ça meurt, en fait.
Exactement, exactement. ça dort, en fait, en débranchant, entre guillemets, la moitié de son cerveau, mais en nageant. Ça continue à nager en permanence.
Vous parliez tout à l'heure des parfums, mais il y a aussi, enfin, des couleurs, mais il y a aussi des parfums. Et moi, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, c'est comment on a frôlé la Troisième Guerre mondiale dans la mer Baltique parce que les harengs ont peur du noir, et quand les harengs ont peur, ils pètent.
Oui, alors heureusement, a priori, les pets de hareng ne font pas un parfum très fort, même si effectivement les parfums sont super importants dans l'eau, hein, dans le monde marin, parce qu'il y a beaucoup de phéromones et d'émotions qui se transmettent comme ça, notamment le stress, pour que les poissons s'avertissent les uns les autres du danger. Mais oui, c'était plutôt pour faire du bruit que les harengs pètent quand ils ont peur du noir, effectivement, lorsqu'ils veulent se regrouper la nuit. Ils communiquent par des impulsions sonores.
Ça fait quel bruit? Pardon, on a cherché, mais on n'a pas trouvé.
Alors, vous pouvez le trouver en cherchant en anglais, en fait, sur Internet, mais ça fait un bruit un peu comme ça. Voilà, mais c'est très court, c'est des petites impulsions.
Mais d'accord. Comment ça, ça a déclenché un incident diplomatique alors?
C'était au début des années 80.
Ah, alors oui, donc j'étais pas né effectivement à l'époque comme le poisson. Et donc au début des années 80, c'était en pleine guerre froide et les Suédois avec les oreilles d'or, c'est-à-dire les officiers mariniers chargés d'écouter les communications sous-marines pour essayer de trouver des sous-marins ennemis, entendaient ce bruit très régulièrement et ils comprenaient pas ce que c'était et ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un sous-marin soviétique très très bien camouflé qui venait les espionner, les attaquer. Et du coup, ça a provoqué un véritable incident diplomatique pendant une dizaine d'années.
Avant qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'était donc des harengs qui avaient provoqué ce trouble.
Exactement, après avoir écrit plusieurs fois aux soviétiques qui niaient.
Alors, on apprend donc plein de choses dans votre livre. Au-delà des anecdotes, je vous apprends aussi que les homards font pipi par leurs antennes, je l'ai appris. L'idée, c'est de protéger quand même ce monde sous-marin et de sensibiliser.
Oui, bien sûr, c'est un monde qui est passionnant. Il faut s'émerveiller devant lui, mais aussi comprendre qu'il est en danger à cause de nos activités, notamment le fait qu'on mange beaucoup trop de poissons et pas les bonnes espèces, et qu'il est donc important de respecter certains labels comme le MSC ou de privilégier la pêche artisanale. Mais tout ça, ça vient du fait qu'on s'intéresse avant tout à leurs histoires et qu'on s'émerveille face à ce monde passionnant.
Parce que vous dites que 20% des enfants ne font pas le lien entre, par exemple, le poisson pané carré qu'il y a dans leur assiette et le fait qu'en fait, il y a des vrais poissons dans la mer.
Oui, c'est ça.
Et vous prévenez qu'on ne verra d'ailleurs plus sous le même angle notre poisson rouge, notre plateau de fruits de mer ou notre sandwich Ton crudité après avoir lu votre livre qui est donc L'éloquence de la sardine, incroyable histoire du monde sous-marin aux éditions Fayard. Et c'est gagné, moi je ne verrai plus mon sandwich Ton crudité de la même façon. Merci Bill François.
Merci
et nous,
à vous.
On se retrouve demain, Guive.
À demain.